Vous écoutez France Culture, il est midi et demi. Le journal de la rédaction vous est présenté par Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous. 250 000 œufs de consommation contaminés au fipronil finalement commercialisés en France. Le ministère de l'Agriculture réévalue ses données tandis que le scandale s'élargit à la Suisse et à Hong Kong. Lise Verbeck sera en direct au début de ce journal. L'Agence nationale de l'alimentation française, l'ANSES, qualifie toujours de très faible le risque pour la santé. Dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif d'attaché parlementaire qui touche le sénateur Michel Mercier, l'épouse du parlementaire serait également concernée, en plus de ses deux filles. Explication à suivre de Corinne Audouin. Un manifeste des valeurs publié par Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, dans 39 hôpitaux de la région parisienne. Marina Capitaine va nous expliquer le sens de cette initiative. À l'étranger, Bruno Meyerfeld nous attend au Kenya, où les résultats définitifs de l'élection présidentielle contestée par l'opposition sont attendus d'une minute à l'autre. Et puis en Ukraine, une fusillade sur une plage qui a fait un mort et plusieurs blessés hier rappelle que le pays est aujourd'hui un supermarché pour l'armement. Conséquence de la guerre dans le Donbass et précision de Sébastien Gobert à la fin de ce journal. Au sommaire de la grande table d'été, Géraldine Mosna-Savoie.
Eh bien au menu aujourd'hui à l'occasion du festival La Route du Cirque de Nexon jusqu'au 26 août, une table ronde circassienne en première partie où à quoi ressemble aujourd'hui le cirque, ses mouvements, ses enjeux. Et en seconde partie, portrait de Michel Didim, comédien, metteur en scène et directeur du festival La Mousson d'été consacré à l'écriture du théâtre contemporain.
Merci Géraldine et à tout à l'heure, 12h45. 15 pays de l'Union européenne sont désormais concernés par le scandale des œufs contaminés au fipronil, mais aussi la Suisse et Hong Kong. Nouvelle révélation en cours alors que près de 20 perquisitions ont déjà eu lieu aux Pays-Bas et en Belgique, pays d'où est parti le scandale. Deux entreprises sont actuellement en cause, la néerlandaise Chickfren, dont deux dirigeants ont été interpellés hier, et le distributeur belge de produits sanitaires pour l'élevage Poultry Vision. La Commission européenne attend d'avoir une meilleure vision des investigations pour convoquer une réunion des 28 ministres de la Santé et des agences de sécurité alimentaire de tous les États européens. En France aussi, la crise s'étend ce midi. Bonjour Lise Verbeck.
Bonjour.
Contrairement à ce que le ministère de l'Agriculture disait mercredi soir, le pays a bien importé des œufs infectés. Ils ont été reçus dans deux centres d'emballage du nord de la France.
Oui, dans le département du Nord et dans le département de la Somme. Près de 250 000 œufs contaminés au fipronil importés de Belgique et des Pays-Bas ont été mis sur le marché en France depuis avril. Selon le ministère de l'Agriculture, des œufs qui n'étaient pas destinés à être transformés, comme quoi la France importe aussi des œufs frais. Il s'agit donc d'un premier lot de 196 000 œufs vendus entre le 16 avril et le 2 mai. Un second lot, lui, a été mis en vente par des magasins Leader Price entre le 19 et 28 juillet. Certains d'entre eux ont été retirés de la vente, mais d'autres ont été consommés.
La question reste toujours la même hein, depuis le début de ces révélations et de cette crise européenne. Y a-t-il un risque pour la santé ?
Eh bien non, a indiqué ce matin le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, qui s'appuie sur le rapport de l'ANSES, l'Agence de sécurité d'alimentation, rapport publié ce matin. Le risque pour la santé est très faible, selon elle, compte tenu des concentrations observées à ce jour dans les produits contaminés. L'agence s'appuie sur plusieurs études antérieures, notamment une expertise de 2005. Pas de risque aigu, selon l'ANSES, si l'on consomme jusqu'à 10 œufs contaminés. Par jour pour un adulte, un œuf par jour pour un enfant de moins de 3 ans. En revanche, l'Agence de sécurité sanitaire aux Pays-Bas, elle, incite fortement les consommateurs à ne pas manger les œufs les plus contaminés qui constituent selon elle un danger pour la santé publique. Les risques sanitaires dépendent de la durée de l'exposition qui aurait été de plus d'un an selon la presse néerlandaise car l'utilisation frauduleuse du fipronil pourrait avoir commencé en 2016 dans le pays. En tout cas en France, au ministère de l'Agriculture, on temporise. Stéphane Travert ne parle pas de scandale sanitaire, mais de fraude. Des entreprises ont été trompées par leurs fournisseurs, a-t-il indiqué ce matin.
Merci Lise Verbeck pour vos précisions. Interrogé par ailleurs ce matin chez nos confrères de RTL, l'eurodéputé écologique Yannick Jadot a dénoncé à travers cette crise le nouveau symptôme d'un modèle irresponsable et dangereux qui va produire de plus en plus de crises. Si les agences belges et néerlandaises n'ont pas alerté, c'est parce que ces pays sont en train de développer des élevages ultra-intensifs qui, je cite, pourrissent les organismes et abîme l'environnement. Le suspect de l'attaque qui a blessé 6 militaires mercredi dernier a été transféré de Lille vers un hôpital parisien. Cet homme de 36 ans a été touché par balle lors de son arrestation sur l'autoroute A16 dans le Pas-de-Calais. Aucune garde à vue n'est prévue pour le moment. Et puis ce n'est pas sans rappeler l'affaire Fillon, le sénateur centriste du Rhône, Michel Mercier, qui est visé par une enquête préliminaire pour détournement de fonds, a été entendu hier par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales. Nouvelle illustration des emplois familiaux au Parlement, désormais interdit par la loi. Michel Mercier a renoncé à intégrer le Conseil constitutionnel il y a 2 jours en raison de cette enquête préliminaire. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour.
Au travers de l'audience d'hier, on apprend que le sénateur n'aurait pas fait travailler que ses 2 filles.
Oui, le cas de l'épouse de Michel Mercier a été évoqué brièvement pendant l'audition du sénateur par les policiers de l'Office anticorruption de Nanterre. Joël Mercier a travaillé auprès de son mari entre 1995 et 2009, lors des premiers mandats de sénateur de Michel Mercier, jusqu'à son entrée au gouvernement. Un rôle de collaboratrice locale dans le Rhône, selon nos informations, comme beaucoup de conjoints de parlementaires. Elle s'occupait du courrier et des visites dans la circonscription de son mari. Un travail qu'elle effectuait dans les 2 domiciles du couple à Lyon et à Tizy. Alors à ce stade, Joël Mercier n'a pas été entendu par les policiers. Le parquet national financier vérifie en fait tous les contrats passés par Michel Mercier avec des membres de sa famille, des emplois familiaux qui étaient autorisés jusqu'à la nouvelle loi de moralisation de la vie publique votée mercredi dernier. Les enquêteurs cherchent donc surtout à vérifier si ces emplois étaient fictifs ou réels. Et c'est surtout le contrat d'une des filles de Michel Mercier, Delphine Mercier, qui pose question. Embauchée à mi-temps au Sénat de 2012 à 2014, alors qu'elle résidait à Londres, elle était rémunérée 2 000 € brut par mois. Pour preuve de sa bonne foi, Michel Mercier a consigné la somme de 40 000 € s'il devait finalement rembourser les salaires perçus par sa fille.
Merci Corinne Audouin pour vos explications. Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, lance aujourd'hui dans ses 39 hôpitaux un manifeste des valeurs, un texte de 2 pages qui définit les engagements du personnel de la PHP. Il sera affiché dans les entrées et les services pour que les patients et leurs familles puissent le lire. Bonjour Marina Capitaine.
Bonjour.
Alors quel est le but de ce manifeste ?
Alors, selon Martin Hirsch, qui est à l'origine en personne de cette initiative, c'est une réponse aux doléances des usagers. Dans ce manifeste, vous lirez par exemple que les personnels de la PHP attachent du prix à la dignité humaine, qu'aucune souffrance ne doit être ignorée ou encore qu'ils s'attachent chaque jour à soigner dans les meilleurs délais possibles, etc. Il y a une quinzaine d'engagements tels que ces derniers. Mais selon le secrétaire général de Sud Santé à PHP, Olivier Youinou, ce texte découle avant tout d'un problème que les syndicats avaient exposé à leur directeur, le nombre croissant de sympathisants du Front National au sein de la PHP, une tendance qui les inquiétait durant la campagne présidentielle.
De se rendre compte aujourd'hui que les gens dont les valeurs d'engagement sont tournées plutôt vers l'humanisme puissent pencher vers le vote Front National avec tout ce que ça induit de négation en fait des valeurs d'origine, quoi. C'était grave. C'était grave et ça touchait pleinement l'assistance publique.
Est-ce que dans ce cadre-là, un tel texte, un manifeste, vous semble être une réponse appropriée à ce problème ?
Pas du tout. Combattre le Front National, c'est donner des réponses sur le plan social. Et c'est s'occuper de leur quotidien, de leurs conditions de vie, de leurs conditions de travail, pas en l'écriture d'un texte que la plupart d'entre eux ne liront pas.
Durant la concertation pour rédiger ce texte, entre 2000 et 3000 membres du personnel de la PHP ont répondu à l'appel de la direction. Ils sont au total 93 000 agents.
Merci Marina Capitaine pour vos explications. À l'étranger, le Kenya retient son souffle ce midi. C'est aujourd'hui que le vainqueur de l'élection présidentielle doit être proclamé. Les résultats provisoires donnent largement favori le chef de l'État sortant, Kenyatta, face à son rival Raila Odinga. Odinga qui continue à revendiquer la victoire, ce qui crée un climat de crispation dans le pays. Il y a eu 4 morts cette semaine dans des échauffourées avec la police dans plusieurs bastions de l'opposition. Bonjour Bruno Meyerfeld.
Oui, bonjour.
Vous êtes notre correspondant en direct de Nairobi. Les résultats sont attendus d'une minute à l'autre.
Oui, en fait, on attendait les résultats dès midi, mais il y a eu du retard. La commission électorale attend en fait de recevoir tous les procès-verbaux du pays avant de se déclarer. Alors, l'issue du vote, vous l'avez dit, ne fait plus trop de doute, a priori. Uhuru Kenyatta est donné largement vainqueur avec autour de 54% des voix. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est quelle sera la réaction de la population, et en particulier, bien sûr, des supporters d'Odinga. Alors, il faut savoir qu'Odinga, avec sa carrière politique très longue de plus de 3 décennies et 4 campagnes présidentielles, est véritablement adulé par ses supporters, un peu comme un roi ou un leader religieux. Tout ce qu'il ordonnera, on le fera, répète ses soutiens dans la rue. Alors, il ne faut pas forcément tous trop les prendre au sérieux. Il y a eu effectivement des troubles depuis mardi, mais les violences restent ultra localisées jusqu'à présent. Quelques quartiers de Kisumu, les bastions de Dinga à l'ouest et un ou deux bidonvilles de Nairobi. Mais l'annonce des résultats pourrait tendre un peu plus la situation. Aujourd'hui, Nairobi est très calme. Il y a très peu de voitures dans les rues, peu de magasins ouverts. On reste chez soi en attendant les résultats. La police, elle, est en état d'alerte. 150 000 policiers sont mobilisés dans tout le pays, soit le plus gros déploiement sécuritaire de toute l'histoire du Kenya.
Bruno Meyerfeld, merci. Vous étiez en direct de Nairobi, au Kenya. Au large du Yémen, des dizaines de migrants africains sont toujours portés disparus selon l'Organisation internationale pour les migrations. Des migrants qui étaient en route pour l'Arabie Saoudite et les Émirats. Ils ont été contraints par leurs passeurs de sauter à la mer cette semaine. 180 personnes concernées et le bilan des victimes, au moins 50 noyés, ne cesse d'évoluer. C'est la conséquence de la crise diplomatique qui touche le Qatar. Doha supprime ses visas d'entrée pour quelques 80 nationalités. Tous les ressortissants des pays de l'espace Schengen, dont la France bien sûr, mais également d'autres pays comme les États-Unis, le Canada ou l'Australie, ont désormais la possibilité de venir dans l'Émirat avec un simple passeport valide. Le pays est boycotté par les autres pays du Golfe pour son soutien présumé au terrorisme. Alors puisqu'il ne s'entend plus du tout avec ses voisins, il cherche à s'ouvrir plus largement sur le monde. Écoutez l'analyse de Marc Lavergne, il est directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Moyen-Orient.
On voit bien que le Qatar veut montrer qu'il est opérationnel et offensif, je dirais, dans cette rivalité avec les pays qui aujourd'hui voudraient le mettre à genoux, en essayant de montrer qu'il est plus libéral, qu'il avance plus vite qu'eux, qu'il s'ouvre. Et c'est quelque chose qui correspond aussi à une nécessité, parce que il faut pas oublier qu'il y a la Coupe du Monde de football, qu'il y a en perspective des ouvertures au tourisme qui seront peut-être ponctuelles, mais qui, de toute façon, jouent beaucoup dans l'image que le Qatar veut donner au reste du monde, c'est-à-dire une image beaucoup plus libérale que celle de l'Arabie Saoudite, par exemple. Il me semble que c'est surtout un effet d'annonce qui n'aura pas beaucoup d'intérêt pratique. Hein. Et le Qatar n'est pas une destination touristique jusqu'à présent. Donc ça facilitera le mouvement pour quelques hommes d'affaires. On essaye aussi de remplir les avions de la compagnie Qatar Airways, mais ça ne va pas beaucoup plus loin.
Des propos recueillis par Ilan Malka. Dans l'escalade verbale qui oppose Washington à la Corée du Nord, la Chine appelle les deux pays à faire preuve de prudence et à agir plus activement pour désamorcer une situation tendue. Enfin, arrêtons-nous sur la folle circulation des armes à feu en Ukraine. Une nouvelle fusillade s'est produite hier sur une plage de Poltava dans le centre du pays. Il y a eu un mort et plusieurs blessés, dont un enfant. Avant le début de la guerre dans le Donbass, le pays possédait déjà le plus grand taux d'armes à feu par habitant du continent européen. Le conflit entre Kiev et les séparatistes pro-russes qui a fait, rappelons-le, 10 000 morts au moins depuis plus de 3 ans n'a fait qu'accentuer cette tendance. À Kiev, c'est une correspondance de Sébastien Gobert.
Sous l'influence de l'alcool, la soirée d'anniversaire a dégénéré. Selon les nombreux témoins présents sur une plage en bord de rivière, une dispute a éclaté au sein d'un groupe de fêtards. Beaucoup étaient issus de clubs de sport et d'arts martiaux et ils en sont rapidement venus aux mains. Jusqu'au moment où certains ont sorti des revolvers et même une carabine et ont commencé à tirer. La police est intervenue trop tard et n'a pu que dresser le bilan. 4 blessés, dont un enfant de 7 ans et un mort par balle tué sur le coup. De tels drames sont rares en Ukraine. Néanmoins, le recours à des armes à feu pour résoudre une simple dispute trahit un phénomène préoccupant. Les armes sont désormais omniprésentes dans la société ukrainienne. L'Ukraine a longtemps été un des principaux exportateurs d'armes au monde. Et avant le début de la guerre qui déchire l'est du pays depuis 2014, il était estimé qu'un Ukrainien sur 4 possédait une arme à feu, légalement ou non. La mobilisation de dizaines de milliers de soldats sur le front de l'Est a amplifié le phénomène. Beaucoup d'Ukrainiens ont cherché à s'armer pour se protéger, à la fois d'une éventuelle généralisation du conflit, mais aussi dans la vie quotidienne. L'encadrement légal reste insuffisant en ce qui concerne la détention d'armes, mais aussi en ce qui concerne leurs négoces. Le magazine américain The New Yorker décrivait récemment l'Ukraine comme un supermarché d'armes. Face à l'impuissance de l'État, les appels à un contrôle effectif se multiplient afin d'éviter que de prochaines fêtes d'anniversaire se terminent dans le sang.
Correspondance à Kiev, signé Sébastien Gobert. La météo de votre après-midi, de la pluie sur une bonne moitié est de la France, alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs et les températures. 17 à Cherbourg, 18 à Strasbourg, 22 à Paris et Bordeaux, 26 à Marseille et jusqu'à 28 à Menton. Journal préparé avec François-Charles Domergue, à la technique, c'était Pierrick Monsigny.